sauver la planète.
L'invité de Totem.
Au menu d'aujourd'hui, le changement climatique. Un dossier qui trouve sa place quotidiennement dans l'actualité, au point qu'il est difficile de passer à côté. Toutefois, sous cette expression se cachent des réalités que l'on ignore la plupart du temps, comme les processus physiques de l'effet de serre. C'est ce dont on parlera ce soir à Rodez avec Sébastien Fourest, chercheur en océanographie à l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. Alors en amont de sa conférence, Olivier Camas, vous voyez avec lui ce que l'on peut en dire.
Sébastien Fourest, bonjour.
Bonjour.
Alors quand on parle du changement climatique, on l'impute notamment aux gaz à effet de serre, le fameux CO2 par exemple, mais on ne dit pas souvent qu'avant tout, l'effet de serre, c'est aussi un phénomène naturel. Et non seulement c'est un phénomène naturel, mais en plus il a eu des effets positifs, notamment de permettre à la vie de se développer sur la Terre.
Tout à fait, hein, l'effet de serre, c'est un phénomène physique naturel. Donc, les gaz à effet de serre comme le CO2, c'est des gaz qui sont présents naturellement dans l'atmosphère. Et d'ailleurs, le tout premier d'entre eux, c'est la vapeur d'eau. Hein. Ces gaz, ils vont piéger les rayonnements infrarouges émis par la Terre au lieu de les laisser partir directement vers l'espace. Ce qui fait qu'il y a une accumulation d'énergie dans l'atmosphère, d'énergie thermique, qui va conduire à une augmentation de la température. Alors, sans effet de serre, la température moyenne à la surface du globe, ce serait moins 18 degrés à peu près, contre 15 degrés en réalité. Donc, on voit bien que c'est d'abord un effet bénéfique qui permet des conditions d'habitabilité acceptables sur la Terre.
D'accord. Alors le problème majeur, si je comprends bien, auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est la rupture de cet équilibre naturel du fait de l'homme, donc.
Alors en fait, le climat n'a jamais été vraiment tout à fait en équilibre. Hein. Il n'a pas arrêté de fluctuer depuis des centaines de millions d'années avec des phénomènes externes, hein, comme la variation de l'activité solaire ou l'orbite de la Terre, ou des phénomènes internes comme le volcanisme, par exemple. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à l'échelle de quelques millénaires, les changements de température, ils ont toujours été très minime. Et la spécificité de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle cette augmentation de température s'opère. Il faut voir que dans un système à l'équilibre, comme notre système Terre, il faut que l'énergie ou la chaleur qui rentre soit égale à ce qui sort. Et quand l'homme émet du CO2, on crée un déséquilibre énergétique en réduisant la quantité d'énergie qui quitte la Terre. Et donc la température monte. Alors pour compliquer les choses, cette augmentation de température, elle met en œuvre aussi tout un tas de ce qu'on appelle des rétroactions qui vont avoir tendance à amplifier cette hausse de température. Donc la concentration en CO2, elle va jouer un peu un rôle de thermostat dans le climat, avec un effet direct assez modeste, mais des effets indirects après toute cette chaîne de rétroaction qui vont être beaucoup plus importants.
Et alors pour inverser la tendance, il faut donc arrêter de produire ces gaz à effet de serre, hein, on a bien compris d'ailleurs, on nous le dit chaque jour ou presque, et donc sortir des énergies fossiles. Ceci étant, est-ce que c'est le seul moyen ou est-ce que dans le même temps, on peut faire autre chose en plus, voire compter sur les phénomènes naturels dont on parlait tout à l'heure?
Alors, ce qui est certain aujourd'hui, c'est que les énergies fossiles, c'est le premier facteur d'émission de gaz à effet de serre par l'homme. Donc, si on veut s'attaquer directement au problème, il n'y a pas 36 solutions, il faut sortir de ces énergies fossiles. Après, vous posez la question de méthodes alternatives, vous pensez peut-être à ce qu'on appelle la géo-ingénierie qui va s'appuyer sur la technologie. Alors, on peut soit s'attaquer directement à la source du problème en mettant en point des méthodes de captation, de séquestration, de CO2, ou alors on pourrait s'attaquer aux symptômes en cherchant à limiter le réchauffement. Mais alors, il faut bien voir que ces méthodes aujourd'hui, elles sont loin d'être assez mûres pour être viables économiquement ou assez fiables pour ne pas risquer d'engendrer des problèmes encore pires.
Alors, une dernière chose, les choix qui sont faits, les grandes orientations politiques, y compris à l'échelle européenne ou mondiale, sont-ils les bons aujourd'hui ?
Ce qui est sûr, c'est que pour arriver aux 2 degrés de réchauffement maximum définis par les accords de Paris, il y a beaucoup à faire et il faut aller vite, même nettement plus vite. En jouant sur deux volets, à la fois sur l'action collective via les politiques climatiques et les actions individuelles via le comportement de chacun. Sans ça, ce sera impossible d'arriver à l'objectif de 2 tonnes de CO2 par an et par personne pour respecter les accords de Paris. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est la quantité totale de carbone présente dans l'atmosphère, donc le stock, qui est déterminant pour la température qui nous attend. Donc chaque kilo de CO2 économisé compte. Voilà, ça peut donner un peu du sens à l'action de ceux qui font déjà attention à leur bilan carbone, même si pour beaucoup encore, les efforts à consentir ne sont pas atteints. Voilà, chaque gramme économisé est bon à prendre dans la lutte contre le changement climatique.
Notre invité aujourd'hui, Sébastien Fourest, chercheur en océanographie à l'Observatoire Midi-Pyrénées de Toulouse. Merci beaucoup et bonne